La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées, entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères qui projettent leur coupole. Là, les pavés sont secs. Les ruisseaux n'ont ni boue ni eau. L'herbe croît le long des murs. L'homme le plus insouciant s'y attriste comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement et les maisons y sont mornes. Les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que les pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit auquel on ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves, ainsi que, de marche en marche, le jour diminue et le champ du conducteur se creuse, alors que les voyageurs descendent aux catacombes. Comparaison vraie, qui décidera de ce qui est plus horrible à voir? Ou des cœurs desséchés ou des crânes vides. La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Pendant le jour, une porte à claire-voie armée d'une sonnette criarde laisse apercevoir au bout du petit pavé sur le mur opposé à la rue une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Sous le renfoncement que simule cette peinture, s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernis écaillé qui la couvre, les amateurs de symboles découvriraient peut-être un mythe de l'amour parisien qu'on guérit à quelques pas de là. À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls. Entre les deux allées latérales est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouille et bordé d'oseilles, de laitue ou de persil. Sous le couvert de tilleuls est plantée une table ronde peinte en vert et entourée de sièges. Là, durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. La façade, élevée de 3 étages et surmontée de mansardes, est bâtie en moellons et badigeonnée de cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ 20 pieds où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau sous peine de pestilence. Naturellement destinée à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreaux de couleur frottée. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies, alternativement mate et luisante. Au milieu se trouve une table ronde à dessus de marbre Sainte-Anne décorée de ce cabaret en porcelaine blanc orné de filets d'or à demi effacés que l'on rencontre partout aujourd'hui. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours propre atteste qu'il ne se fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de 2 vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Malgré ces plates horreurs, si vous la compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme le doit être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, tout encadré en bois noir verni à filets dorés, un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquettes d'argan où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, des petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières défaites dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expiant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Enfin, là règne la misère sans poésie, une misère économe, concentrée, râpée. Bientôt, la veuve se montre attifée de son bonnet de tulle, sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat, son corsage trop plein qui flotte sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont Mme Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Enfin, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Son jupon de laine tricoté qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée résume le salon. La salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet.
Le Père Goriot, un texte d'Honoré de Balzac. Narration et adaptation de Marie-Claude Tardier.